dissimuler sa honte dans un couvent de Provence où elle consacrait désormais ses jours à la prière et au service de Dieu. Il raconta comment, sans que sa main tremblât, il avait puni le violeur, lequel avait quémandé en vain sa clémence de la manière la plus abjecte. Il ajouta que, malheureusement, la famille du misérable s'étant montrée peu encline à reconnaître la légitimité de l'exécution, il avait dû faire couler le sang à nouveau, en état de légitime défense cette fois, jusqu'à ce que la menace eût disparu, faute de mal valide. Désormais, il lui fallait seulement, avec l'aide active d'une population qui le vénérait, éviter des gendarmes rêvant de le conduire à la guillotine, et supporter les misères d'une vie de réprouvé. La solitude des nuits dans la campagne, avec pour seule satisfaction la certitude de n'avoir pas failli. Ce dernier point était très exagéré. Pour l'heure, les gendarmes ne se souciaient guère de lui, et la plupart du temps, il dormait chez ses parents, dans la chambre de son enfance. Le reste était entièrement faux. Mais Pierre-Marie savourait la joie d'être devenu, par la seule force de son récit mensonger, celui qu'il aurait tant voulu être. Pour la première fois, il était en paix avec lui-même, et la journaliste le regardait d'un air satisfait qui lui réchauffait le cœur. Nous connaissons bien, nous aussi, la puissance de ce regard, son incroyable capacité à nous transformer de fond en comble. À la fin des années 1990, après s'être exclusivement consacré au bronzage sur les plages, ils commencèrent à penser, ou plus probablement quelqu'un pensa pour eux, qu'il serait bon de diversifier leurs activités, de se rapprocher de la nature et de s'intéresser aux cultures indigènes, et ils décidèrent de partir en quête de l'authenticité que nous étions bien sûr tous disposés à leur vendre. Ils se mirent donc à arpenter en masse les chemins de randonnée, troquant avantageusement leurs coups de soleil, piqûres d'oursins et hydrocutions pour des ampoules, des morsures de punaises de lit, des entorses et des chutes mortelles au fond de ravins oubliés. Ils exigèrent de manger local, d'écouter de la musique locale. Ils tenaient absolument à ce que leurs vacances aient du sens. Nos avant- et arrière-saisons jusqu'ici épargnées virent débarquer des troupes de retraités lubriques, de sportifs de l'extrême et de jeunes actifs que ne contraignait pas encore le calendrier scolaire. J'ai peine à croire que nous nous en soyons réjouis. Eussions-nous été plus perspicaces, nous les aurions soigneusement cantonnés en masse sur le littoral du 1er juillet au 31 août, exclusivement, dans des campings ou des hôtels 5 étoiles selon leurs revenus, en leur interdisant de s'éloigner de la mer et d'entretenir avec nous d'autres relations que commerciales ou sexuelles, ce qui, pour peu qu'ils disposent de supermarchés, de restaurants et de boîtes de nuit à proximité, ne leur serait de toute façon jamais venu à l'esprit. Mais nous ne savions pas alors qu'il n'existe rien de tel qu'un tourisme intelligent ou durable, et qu'il ne fallait pas craindre d'en tirer toutes les conséquences. Philippe, bien évidemment, comprit qu'il tenait là une nouvelle occasion de se faire du fric, et il n'en demandait pas davantage. Il se débrouilla, Dieu seul sait comment, pour louer à des entreprises, en plein hiver, pour des stages ou des séminaires, une de ces bergeries situées sur un plateau à 1200 mètres d'altitude, où aucun individu sain d'esprit n'aurait accepté de mettre les pieds passé le 1er octobre. Il s'agit, cette fois-là, d'une session de team building de 3 jours. L'organisatrice a jugé pertinent, afin de conclure en beauté, de faire une surprise à son équipe. Quelque chose de vraiment inattendu, quelque chose d'authentique, bien sûr. Elle a particulièrement insisté sur ce point, qui achèverait de rendre le séjour tout à fait inoubliable. Philippe lui a donc proposé d'organiser pour un supplément raisonnable un concert de chant soi-disant traditionnel, idée qu'elle a immédiatement qualifiée de « géniale ». C'est là que nous devons entrer en scène, les jumeaux Django, Betsabé et moi. À cette époque, nous aimons encore la musique. Nous l'aimons vraiment. Sur la scène du Bamboléo, Django n'a pas encore abandonné le jazz manouche et la bossa nova pour jouer, conformément aux souhaits conjoints de la clientèle et de Philippe, des tubes des Gypsy Kings et de la variété italienne. L'été, j'y passe tous les soirs, les jumeaux me rejoignent à la fermeture du restaurant et nous chantons tous ensemble. Je songe parfois à quitter l'enseignement pour me consacrer à la musique. Je fais des gammes à la guitare, des vocalises, j'étudie l'harmonie, le solfège. Rien ne me rebute, mais heureusement, je ne démissionne pas. Peut-être parce que mes parents m'ont solennellement prévenu